L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à 17h.
Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonjour, bienvenue dans Jazzland sur Aligre FM, l'émission sur l'actualité du jazz. Et je suis très heureux de vous présenter mes deux invités qui sont, on peut le dire, au cœur du renouveau du jazz français. Ils se connaissent très bien et du coup, ça me fait plaisir de les inviter ensemble. Alors, tout d'abord, Julien Dubois, bonjour et bienvenue à Jazzland.
Bonjour.
Alors, vous êtes saxophoniste et compositeur et chef d'orchestre et vous avez sorti le deuxième album de votre groupe Le Jardin, et qui s'intitule Le Soi et l'Autre. Alors ça, on en parlera plus précisément parce qu'il y a un concept quand même. Et puis, c'était donc le 24 octobre dernier sur le label Déluge, un label d'ailleurs que vous avez créé. Il y a eu un concert de sortie de disque le 1er novembre au Café de la Danse où j'étais présent, qui était formidable. Il y avait une très très belle émulation. Et alors j'espère qu'il y aura d'autres concerts en 2026. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des dates à venir ?
Oui, on a pour l'instant trois dates.
Mais c'est formidable.
Qui sont confirmées le 12 mars à la Petite Halle à Paris.
Très bien.
Le 13 mars au Taquin à Toulouse.
Oui.
Et donc le 25 juillet, nous serons au Festival de Jazz d'Andernos.
Oh, c'est formidable. C'est bien que vous puissiez être programmé dans les festivals.
Ouais,
c'est jamais gagné. Bravo. Alors, on va parler plus précisément de votre album dans la deuxième partie de l'émission. Mais votre micro est ouvert et vous pouvez bien sûr intervenir quand vous voulez. Alors Elinoa, bonjour, vous êtes ma deuxième invitée, bienvenue à Jazzland.
Merci, bonsoir, bonjour.
Alors vous êtes chanteuse, compositrice et chef d'orchestre. Vous avez sorti Mejiro, si je le prononce bien, qui est votre cinquième album. Alors il y en a eu trois sous votre nom et deux sous le nom d'un orchestre dont vous êtes la chef, qui s'appelle le Wanderlust Orchestra.
Exactement.
Voilà, donc ça fait 5, 3 plus 2 ça fait bien 5. Et alors vous aussi, si vous sortez vos albums sur votre propre label, alors j'adore le nom de votre label, hein. Les Petits Cailloux du Chemin, alors ça s'invente pas quand même. Il n'y a même pas d'explication à donner, c'est le petit pousset qui avance.
Oh bah si, il y a quand même une explication, on n'a pas choisi ce nom au hasard, mais oui, c'est un album que j'ai créé avec, un label que j'ai créé avec ma mère, qui est aussi musicienne.
Bah oui, je la connais un peu.
Ah ouais. Bah voilà, et les petits cailloux, c'était les voix qui se mélangent pour faire de la musique, parce qu'on était... des chanteuses toutes les deux. Voilà.
Bon, très bien. Écoutez, c'est parfait. Alors, votre album, il est sorti le 19 septembre dernier. Et il y a eu un concert de sortie de disque au Lavoir Moderne le 14 octobre. Et alors, je sais qu'il y a un concert le 28 février à Cournon.
Oui.
Dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand. Voilà, vous avez peut-être d'autres dates à nous donner, non ?
Bah oui, la prochaine date à Paris, c'est le 10 janvier la Maison de la Radio.
Ah mais oui,
j'ai vu.
En plus, je le sais très bien et j'ai complètement oublié de la noter. Merci de le rappeler. Oui, et vous êtes. Et qui c'est qui est ? C'est toujours des doubles concerts. Il y aura qui dans, sur
c'est
le...
avec Joey au missile.
Ah ouais,
qui
super.
Qui joue en deuxième partie.
Qui joue après. Arnaud Merlin, il a toujours des bons
des
goûts.
Bonnes idées.
Alors écoutez, avant de parler en détail de votre album, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, on va écouter tout de suite un extrait. Parce que c'est un album qui parle du Japon, et donc là, ce sont les larmes de Tokyo, Tokyo Tears.
His faith in the most blinding light, it'll keep radiating way into the night. I never know how to write melodies I wish I could simplify. I despair.
C'était Tokyo Tears, tiré de Mejiro d'Elinoa. Alors, cher Elinoa, c'est l'arme de Tokyo. Alors, avant de parler plus précisément du projet du Japon, puisqu'il s'agit de ça, vous allez nous citer les super musiciens qui vous accompagnent. Là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un jazz de chambre. Ça vous va comme définition?
Oui, oui. Bah, je me pose la question en ce moment justement de comment qualifier un peu ce parti pris musical. Mais ouais, surtout des musiciennes d'ailleurs. Donc là, sur l'album, on a Héloïse Lefebvre au violon, Mathilde Vrèche à l'alto, Juliette Serrade au violoncelle, Christelle Raquier à la flûte, et Arthur Haine, donc le seul homme du groupe, à la mandoline.
Bah alors, ouais, bah alors celui-là, il ne vous quitte pas depuis vos tout débuts. Il est contrebassiste d'habitude, puisqu'il est sur tous vos disques. Hein.
Voilà.
Je pense qu'il était à l'école avec vous, à l'école Didier Lecoultre.
Exactement.
Hein, c'est ça, ouais.
Oui,
des musiques Didier Lecoultre, le fameux CMDL. Mm-hmm. Et alors, vous êtes inséparables tous les deux. Hein.
Bah, j'aime bien dire que c'est un peu mon alter ego. Enfin, ouais. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à notre première année au CMDL, et puis bah, tout de suite, ça a matché. J'aime bien dire qu'il m'a appris le rythme, mais je lui ai appris l'harmonie, donc c'est un peu simpliste. Hein.
Ça fait un bon échange. Mais en tous les cas, on savait qu'il était un très bon contrebassiste. Et là, on l'entend à la mandoline, et c'est très beau aussi. Et ça fait longtemps qu'il joue de la mandoline. Il joue de la guitare aussi, j'imagine, non ?
Ouais, la guitare, c'est même son premier instrument. Enfin,
d'accord.
Je crois qu'il a fait un peu de percussion aussi, mais bon, après, la contrebasse, c'est son instrument de cœur.
Ouais.
Mais il a un don, un rapport avec les instruments à cordes qui est assez exceptionnel.
Mais pourquoi vous aviez envie d'une mandoline ? Parce que c'est plutôt singulier comme choix.
Bah, à partir du moment où j'ai décidé que le rôle de contrebassiste en fait serait plutôt attribué au violoncelle, donc à Juliette Serrade qui elle groove avec son violoncelle un peu comme le ferait un contrebassiste, j'ai trouvé ça intéressant justement d'exploiter cette face cachée d'Arthur. Et c'était aussi pour ajouter un autre élément rythmique en fait à part le violoncelle, enfin qui est un peu ce répondant, parce que la mandoline, au-delà de son rôle mélodique, ça peut aussi être utilisé pour
On peut faire des riffs. Hein.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, mais sur un des morceaux, je ne sais pas si vous allez le passer, mais à la fin, on a un solo de batterie, mais qui est fait par la mandoline. Donc c'est vraiment mandoline purement rythmique, à la manière que serait joué un solo de batterie. Donc, je trouvais ça intéressant.
Mais voilà, ce que je définis que le jazz de chambre, voilà, c'est des instruments acoustiques, et c'est en général pas de contrebasse, pas de batterie. Quoi. Mm-hmm. C'est un peu comme ça que je définis, moi.
Oui, et puis on pourrait jouer sans aucune amplification. Enfin,
voilà,
potentiellement,
c'est pour ça que je dis acoustique. Voilà. Et ça, c'est génial. En fait, c'est l'idéal, ça, de jouer. Puis ça gagne. D'abord, c'est un gain d'argent, un gain de temps.
C'est décroissant.
Il n'y a pas de balance. c'est génial, ça.
Mm. Bon, dans la pratique, on est parfois sonorisé quand même. Enfin, moi, j'aime bien quand même avoir un petit micro. Mais en tout cas, oui, c'est un peu l'idée de se dire.
Bah pour chanter, c'est bien d'avoir un micro quand même aujourd'hui. À moins d'être dans un endroit avec une réverbe naturelle, une chapelle ou je ne sais quoi. Mais,
exactement.
Mais après, il ne faut pas qu'il y ait trop de réverbe non plus. C'est ça, c'est compliqué. Alors, le Japon. Alors, en plus, c'est très, très amusant parce que vous revenez du Japon. Là, il y a hier ou avant-hier. Hein.
Avant-hier, ouais.
Vous y avez passé 3 semaines et c'est votre 4e voyage au Japon. Donc, il y a une histoire d'amour avec ce pays. Alors, racontez-moi tout ça.
Oui, ce projet, c'est pas du tout... je joue pas de la musique japonaise, hein, je tiens à le dire quand même.
On a bien entendu, même s'il y a des petites choses un peu orientales, mais c'est de l'oriental un petit peu comme pouvaient le faire les impressionnistes français qui collectionnaient les estampes japonaises et qui aimaient comme ça trouver des petites harmonies ou des mélodies, même des fois un peu orientales.
Mais disons que c'est une manière en fait d'avoir un peu digéré à ma façon, dans mon regard d'occidental, mais cette culture-là depuis assez jeune, hein, parce que je pense que comme pas mal de gens de ma génération, mais on a été nourris justement...
Au manga, aux jeux vidéo.
Voilà, surtout dans mon cas plutôt aux jeux vidéo, et puis aux films de Miyazaki par exemple, pour ne pas les citer. Après moi le pays, ça a été assez vite important pour moi d'y aller en personne et de voir un peu comment je ressentais la rencontre avec ce pays. Et puis parmi ces 4 voyages, c'était aussi du voyage, on va dire entre guillemets touristique, mais en essayant quand même un peu de sortir des sentiers battus et d'aller voir plutôt le Japon rural un peu délaissé, enfin pas le Japon qu'on connaît. Et puis aussi il y a eu un de ces voyages qui était une tournée en fait, que j'ai eu la chance de faire avec
C'est encore mieux qu'on peut travailler tout en faisant du tourisme, là c'est l'idéal.
et puis de voir un peu ce que ça faisait de confronter cette musique à la scène japonaise. Et Donc c'était un peu un rêve qui se réalisait. J'espère qu'on aura l'occasion d'emmener ce projet Mejiro au Japon.
Ah bah ça serait génial. Julien, vous avez déjà été au Japon, vous ?
Non, pas du tout, non.
Non, ça vous plairait ?
Ouais, moi j'ai toujours un peu de mal avec les voyages purement touristiques.
Donc faudrait une tournée au Japon, du jardin par exemple.
Je signe, où ?
Alors, cher Elinoa, il faut préciser que Mejiro, ça, il y a un double sens. Alors, expliquez-nous.
Oui, alors c'est à la fois un quartier de Tokyo, une station bien connue de la ligne Yamanote, la ligne qui...
Ligne de métro.
Voilà, qui la seule ligne circulaire qui relie toutes les stations à Tokyo. Et c'est aussi le nom d'un petit oiseau que je n'ai pas observé dans mon précédent voyage, mais le Mejiro, donc c'est un petit passereau japonais qui existe que là-bas et qui est vert, un peu du vert de la couleur de ma pochette d'ailleurs.
Ah oui, il faut signaler. Alors là, on est à la radio, on n'a pas l'image, mais la pochette est vraiment très très belle. C'est la plus belle pochette de l'année pour moi. Et d'ailleurs, toutes vos pochettes sont toujours particulièrement soignées.
Eh bien, c'est le travail de Marc Rim, hein, je cite son nom parce que.
Mais il faut citer les noms des graphismes, bien sûr.
Les lauriers acquis.
Bon, écoutez, on va écouter un deuxième extrait. Peut-être juste vous allez nous expliquer. Alors, j'ai choisi The Commodore's Voice. Je crois qu'il s'agit d'oiseaux encore là.
Oui.
Commodore, c'est un oiseau.
Tout à fait, c'est un rossignol japonais si je peux juste expliquer un peu l'histoire de ce morceau, mais c'est l'idée, c'était de redonner la parole à cet oiseau, parce que la mélodie du morceau a été construite à partir du chant de l'oiseau, un peu à la Messiaen. Enfin, à ma façon, évidemment.
C'est une très bonne référence.
Mais voilà. Et l'idée, c'était de se poser la question, parce qu'il y a des paroles sur ce morceau, et de se dire, si les oiseaux avaient la parole, qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire ? Et je pense que ce qui est assez évident, c'est qu'ils auraient à nous dire, mais les humains, vous êtes en train de faire n'importe quoi, et de détruire cette planète.
Eh bien oui, bien sûr.
Mettez les freins tout de suite, parce que nous, on en souffre, nous les oiseaux.
Alors, on écoute tout de suite The Commodore's Voice, et vous pourrez entendre un magnifique scat d'Elinoa dans ce morceau.
Et le fameux solo de...
Some of the best. son papa dado London dada son papa dada la rumba dada la no do do de bo 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 ba e do do de santé papa dada son papa dada da da ya bo ba dada 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 son vi 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 papa
sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Voilà, c'était The Commodore's Voice d'Eddie Noah, tiré de son album Mejiro. Alors, Commodore, c'est un petit oiseau. Alors, j'aimerais bien qu'il vous entende scatter, ce petit oiseau-là, parce que là, vous lui faites une sacrée concurrence quand même.
C'est gentil.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je voudrais un petit peu demander à Julien Dubois qu'est-ce qu'il pense un petit peu. Là, on a entendu deux morceaux de Mejiro d'Eddie Noah. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh bah c'est, alors moi, comme je le disais tout à l'heure, j'étais au concert de sortie de disque. Je n'avais pas écouté le disque avant, donc j'ai vraiment découvert cette musique.
En live, c'est ça.
Et bon, j'y allais évidemment... Je savais que ça allait être super parce que l'écriture de Camille, enfin d'Eddie Noah, est vraiment toujours très très précise et très très intéressante. Et là, en plus, il y a un univers orchestral qui est très original, donc c'est fascinant, ouais.
Fascinant, mais oui, on peut le dire. Cette fascination du Japon, donc vous allez y retourner, j'imagine, une cinquième fois.
Eh ben ouais, j'imagine que si je retourne, ce sera en tournée avec Mejiro, mais j'y travaille, j'essaie de trouver des pistes.
Mais vous avez un tourneur qui s'occupe de ça, non ?
J'avais un contact sur place, ouais, qui m'avait trouvé un peu des concerts en club, mais voilà, là, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres solutions pour toucher un peu d'autres lieux que les purs clubs de jazz. Parce que c'est vrai qu'au Japon, le club de jazz, souvent, il y a un peu cette idée, peut-être un peu old school, mais du jazz comme le trio, enfin, piano, contrebasse, batterie.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que quand on propose des choses qui sortent un peu de cette proposition-là dans des clubs de jazz, c'est assez difficile de faire venir du monde.
Il faut jouer dans des salles de musique classique.
J'essaye de trouver justement quel serait le bon réseau.
Ou dans des églises,
musique,
temples, des chapelles, je ne sais pas moi.
Sous des tories.
Mais non, mais j'imagine qu'il y a plein de dieux. Les Japonais sont fous de musique. C'est quand même très très ancré.
Ils sont fous de disques en tout cas.
C'est encore un pays où on vend des disques.
Tout à fait, ouais.
Donc si vous faites des tournées là-bas, amenez des piles de disques, vous allez en vendre.
Non, c'est vrai.
Alors on va écouter un dernier morceau. Alors celui-là, il est très facile à décrypter puisqu'il s'appelle 6000 miles. Donc c'est la distance entre Paris et Tokyo, il me semble, si je
Bien
me trompe
joué.
Pas.
Bien deviné.
Ouais, c'était pas très compliqué. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis en kilomètres? Ça doit faire pas loin de 10 000 kilomètres, ça pouvait sonner pas mal aussi, non?
Oui, bah, c'était parce que le mot miles est plus poétique que le mot kilometers.
Ouais. Et c'est peut-être pour avoir des points pour, avec les avions aussi.
Ah, non, voilà. C'est ça. Ça me fait 6 000 miles.
Ouais, c'est ça, 6 000 miles à accumuler.
Non, mais
pourquoi vous vouliez parler de cette distance, du coup, qui est quand même, oui, c'est quand même le bout du monde, hein, 10 000 kilomètres. Hein.
Bah, en fait, c'était un peu ça le sujet, c'était un peu de se dire le fait de sentir un lien très fort avec un pays qui est à l'autre bout de la planète, surtout dans un contexte aujourd'hui où l'écologie fait que, enfin, comme je disais, je parlais un peu d'écologie dans le morceau précédent, mais ça devient de plus en plus compliqué d'assumer de prendre l'avion, enfin de le faire et de savoir le coût que ça a sur la planète. Et en fait, ce morceau, il parle de ça, un peu de cette tension de comment faire quand on a cet attachement très fort à une autre culture, à un autre pays qui est aussi loin, de garder ce lien intact et malgré tout de savoir que c'est quelque chose qui est fondamentalement incompatible avec, en tout cas dans les prochaines années, je ne suis pas sûre qu'on pourra encore beaucoup voyager, en tout cas tel qu'on l'a fait jusqu'ici, quoi.
Oui, non, c'est sûr, mais c'est bien de se poser ce questionnement. En même temps, si vous faites un voyage par an ou tous les deux ans, ça va. Hein.
Ça fait une
empreinte carbone qui n'est pas si considérable que ça.
Même ça, c'est compliqué.
Vous savez, il y a des gens qui ont des jets privés. Hein. C'est ceux-là qu'il faut viser, moi, je pense. Alors, sur la musique de ce morceau, quelque chose à dire avant qu'on l'écoute?
Eh bien oui, il y a une chose que j'ai encore jamais dite d'ailleurs sur ce morceau, c'est que la mélodie du refrain, on va dire, enfin un moment où il y a des chœurs, vous allez entendre, c'est inspiré d'une mélodie d'Anne Passeo, en fait, avec laquelle j'ai collaboré il y a quelques années, j'ai fait pas mal de concerts avec elle. Et en fait, il y a un de ses morceaux dans son projet Circles, là, celui où il y avait Léna Martial, où en fait, j'ai repris une mélodie et puis je l'ai harmonisée avec des gros accords qui ne sont pas du tout ceux qui étaient à la base.
C'est marrant, merci d'avoir dû nous donner ce scoop pour Jazzland.
Voilà, je sais pas, j'avais cette ritournelle qui m'est tournée en tête et du coup, je me suis dit, tiens, je vais la remettre quelque part dans ma musique.
Alors, on écoute tout de suite 6000 miles. Alors voilà, on vient d'entendre les 6000 miles. On a voyagé pendant 3 minutes 55, un long voyage au Japon. Ben, merci beaucoup, Elinoa. On va passer au projet de Julien Dubois avec son groupe Le Jardin, un groupe complètement renouvelé par rapport au premier disque.
Oui, tout à fait. J'ai voulu,
Vous avez gardé le nom du groupe, mais il ne reste plus que vous quand même. Hein.
C'est ça, ouais, parce que Le Jardin, c'est une espèce de marque de fabrique, de concept, manière
d'accord.
D'écrire... qu'on retrouve sur les deux albums, mais effectivement, par contre, sur sur l'équipe, on a autre temps, autre mœurs.
Bon, et si vous y aura peut-être un troisième album, vous auriez envie encore de changer ou vous savez pas trop?
Ah, pour l'instant, je sais pas. On verra.
Parce que là, moi, je vous ai vu en concert, le groupe, ça fonctionne bien quand même.
Ouais,
hein.
Ouais, c'est une super équipe.
Bah, cela dit, le premier fonctionnait aussi, hein, c'était ouais. Pas la question. Bah, écoutez, avant qu'on en parle plus profondément, on va tout de suite s'en rendre compte de ce projet qui est assez étonnant, et vous nous citerez les musiciens, mais on va d'abord se donner une idée avec un morceau qui s'appelle, alors les titres chez Julien Dubois, c'est un poème, donc Première vexation Copernic.
Lionel Eskenazi.
C'était la première vexation sous-titrée Copernic, tirée de l'album du Jardin, Le Soi et l'Autre de Julien Dubois. Alors, vous allez un petit peu peut-être nous expliquer ce titre. Alors, il y a plusieurs vexations hein, dans l'album. Il y en a une troisième et puis... Alors, il y en avait une deuxième, elle était dans l'album d'avant. Il faut que vous nous expliquiez un peu tout ça.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé par la... C'est une suite, en fait, instrumentale que j'ai commencé à écrire il y a maintenant plus de 7-8 ans.
Ouais.
Et en fait, j'ai commencé par la deuxième partie, qui est la partie la plus lente et la plus calme.
Qui était donc dans votre album précédent et qui était sous-titré Marx.
Non,
c'est Darwin, pardon, voilà, Darwin. Ouais. Alors, pourquoi à chaque fois il y a quelqu'un comme ça de très célèbre et associé à une vexation?
C'est ça, ouais. En fait, j'ai voulu écrire au sujet des moments où l'humanité s'est retrouvée confrontée à une obligation de changer de paradigme, en fait, de pensée. Donc ces trois grands moments, donc Copernic.
Le moment donc là, on a écouté Copernic. Donc là, la deuxième vexation, c'était Darwin. Et la troisième, c'est Marx.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
C'est pas n'importe qui, ces gens-là, quand même. Hein, attention.
Alors, sur la troisième vexation, j'avais une hésitation entre Freud et Marx. Parce que pour moi, c'est... Voilà, il y en a un qui a agi plutôt au niveau de l'individu, puis l'autre plutôt au niveau de
la société,
ouais. Sociale, voilà. Mmh. Mais ça fait partie des grands penseurs qui ont obligé l'humanité à penser autrement à un moment donné sur des concepts, en fait.
Mais qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi le mot vexation c'est ça qui m'interpelle, moi.
Eh ben justement, par rapport au fait d'être obligé de revenir sur des certitudes, comme par exemple pour Copernic, il a bien fallu qu'on admette que la Terre n'était pas plate et que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre. Et ça a été admis à un moment donné du bout des lèvres.
Ah oui, donc ça suscitait une vexation, d'accord.
C'est
ça, oui, voilà. Ouais, je comprends
c'est
mieux
c'est
maintenant.
C'est les grands moments où on se dit d'accord. En fait, on n'est pas sur notre piédestal, on n'est pas au centre de la Terre, on n'est pas.
Ouais, bien sûr.
On n'est pas le plus fort.
Alors là, on a entendu une musique. D'ailleurs, Elie Noah était estomaqué par l'énergie et puis surtout l'exigence. Voilà, c'est quand même assez compliqué. C'est difficile à jouer. Il y a l'unisson entre le violon et le sax alto. Enfin, c'est assez incroyable, mais c'est au cordeau. Ça fonctionne super bien. Alors, vous allez nous citer ces formidables musiciens parce qu'il faut la jouer, cette musique. Hein.
Ouais.
Ah, mais oui.
Alors, là, pour ce disque, effectivement, j'ai fait appel à Alba Aubert. Donc au violon, qui est une jeune violoniste d'une trentaine d'années. Maëlys Maron au piano.
Oui.
Super pianiste également. Et une rythmique un peu de légende que j'ai appelée, qui est donc Maxime Zampieri et à la batterie et Jean-Luc Lair à la basse.
Alors Jean-Luc Lair, Maxime Zampieri et Maëlys Maron, les trois, ils ont joué avec Magic Malik. Hein. Il y a un point commun là.
Il y a un
truc.
Commun,
hein. Alors vous, je sais que vous êtes un grand fan de Steve Coleman. Et comment ne pas l'être quand on joue du sax alto et qu'on est de votre génération, parce que vous avez forcément baigné là-dedans. Et on sait que Magic Malik et Steve Coleman étaient très liés à une époque et que de toute façon, Magic Malik, il s'en est jamais remis, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vas-y, racontez-moi tout ça un peu.
Effectivement, moi, ce qui m'a intéressé dans cette rythmique Jean-Luc et Maxime, c'est qu'ils se connaissent très très bien. Donc, ils ont une habitude de jeu qui est vraiment très impressionnante. Des fois, j'ai vraiment la sensation même qu'ils sont dans de la télépathie.
Ouais, tellement... ça roule tout seul, quoi.
Et puis, ils ont du coup des habitudes de travailler sur des éléments rythmiques, même si c'est pas du tout les mêmes que ceux que moi, je fais. Parce que Malik, il a vraiment un système... D'ailleurs, moi, je maîtrise pas les systèmes de Malik. Hein. Je suis pas du tout familier avec la musique de Malik, même si je l'écoute et que je l'apprécie beaucoup. Et donc, eux, ils ont cette espèce d'habitude d'être capables d'évoluer dans des univers rythmiques très dangereux, on va dire.
Ouais, complexes en tous les cas. Oui.
Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ils portent la musique avec un espèce de socle qui est très très solide. Et ensuite, nous, Maëlys, Alba et moi, on, On se déploie là-dessus un peu comme des espèces de papillons.
Ah ouais, c'est une belle image. Mais on peut dire que c'est comme Steve Coleman qui a inventé un peu cette façon de jouer. Surtout ce travail rythmique très très particulier quand même.
Ouais. Alors
On peut dire ça ou...
Je prétends pas aller aussi loin que Steve Coleman.
Finalement. Non, mais c'est pas ça que je dis. Hein, mais je dis, c'est quand même lui le précurseur de cette nouvelle forme de jazz, on peut dire.
Ouais, c'est sûr que c'est lui qui... Enfin, tout le rapport aux métriques impaires et au système rythmique, etc. C'est lui qui a un peu initié cette chose-là, même s'il n'était pas le seul, évidemment.
Non, bien sûr.
On retrouve aussi pas mal de Zappa dans ce que je fais, c'est-à-dire
qu'il y a cette
idée aussi de l'écriture, en fait. Et voilà.
Mais c'est des bonnes références, hein, de toute façon. Alors, vos morceaux sont très longs. Bon, là, j'ai choisi le plus court. Hein.
Ouais.
Mais ça tombe bien parce qu'il colle bien. Et, alors là, on finira sur un morceau assez long. Et là, du coup, j'ai choisi un morceau très court qui est une virgule parce que, voilà, au milieu de... Il y a des ponctuations comme ça dans le récit de ce disque. Alors, vous avez appelé ça des interludes. Déjà, il y a une ouverture, il y a un premier interlude et un deuxième interlude. Voilà, on peut dire ça. Hein.
Tout à fait.
Et c'était quoi l'idée ?
L'idée, c'est déjà de, comme c'est une musique qui est très dense, il se passe beaucoup de choses, d'apporter des petits moments un peu de calme et pour dédensifier. Et puis tout simplement la symbolique du soi et l'autre, c'est-à-dire que le premier interlude, je suis seul, donc c'est vraiment le soi, et le deuxième interlude, je suis avec Maëlys en duo. Donc le soi et l'autre. En fait.
D'accord. Bon, on va écouter le soi, justement. Vous êtes seul au saxophone alto. Voilà ce petit interlude de Julien Dubois seul avec son saxophone alto qui s'intitule Le Soi. On aurait presque envie que ça dure plus longtemps, non ?
Ouais, merci. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir ces petites... Parce que le disque est long aussi.
Oui.
Ces petits moments.
Là, il y a une belle respiration. Voilà, et puis, ça. On est dans un autre mood quand même. Hein.
Exactement, pour créer des petites parenthèses.
Mais ça, vous pouvez montrer que vous avez aussi un certain lyrisme expressif comme ça, très différent de ce qui se passe dans les autres titres. Alors, je voudrais un petit peu l'avis d'Eli Noah sur la musique de Julien Dubois.
Moi, Julien, comme on disait, hein, mais ça fait un moment qu'on se connaît, et moi, je le trouve super intéressant, déjà, évidemment, en tant que saxophoniste, hein, comme on a pu l'entendre là, mais aussi en tant que compositeur. Et je pense ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout la même approche de la composition, et justement, ce truc hyper différent. Et en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, donc tout ce qu'il écrit est pensé, conceptualisé.
Bien sûr, ouais.
D'ailleurs, j'avais pris beaucoup de plaisir à suivre les petites capsules vidéo qu'il avait sorties en même temps que son album. Dans lesquels il expliquait justement son processus d'écriture, et je trouvais ça super intéressant. Comme je disais, hein, vraiment pas du tout la même façon que j'ai d'aborder l'écriture, mais vraiment du coup ça ouvre des portes conceptuelles vraiment intéressantes. Et puis j'ai énormément de respect justement pour des gens comme Julien qui ont cette vision et ce perfectionnisme et qui arrivent à mettre en place des projets comme ça. Moi je suis très fan en tout cas de ce qu'il fait.
Oui, parce que le projet est plutôt gonflé, mais vous faites ce que vous voulez. Parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs compositeur, Julien, que vous tenez beaucoup à avoir votre indépendance artistique. C'est quelque chose de très important chez vous. Vous avez créé votre label, il y a un réseau associatif autour de vous, autour de ce concept du déluge, hein, avec vos deux copains Thomas Julienne et Clément Simon. Et c'est très important, ça, d'être indépendant, en fait, et libre.
Ouais, alors c'est aussi la nécessité qui fait loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire les musiques qu'on joue, on n'a pas beaucoup d'opportunités d'être produit par un tiers.
Je comprends.
Donc, et puis à un moment donné, c'est aussi toute l'aventure de l'auto-organisation, effectivement, qui est vraiment très intéressante, au-delà aussi de la production, dans le fait d'organiser des concerts, des festivals, d'essayer de générer des dynamiques artistiques autour des musiques qu'on joue. Elinor et moi, ça reste des musiques qu'on va appeler de niche.
Oui, et j'aime donc, pas cette expression.
J'aime pas, on n'est pas des chiens, bon
bah
sang.
Oui, c'est ça, des oiseaux.
Je suis pas très fan
de cage, alors.
Mais ça donne... disons que c'est des musiques qui ont besoin d'être défendues, d'être portées sur scène, d'être amenées à un public. Et donc, du coup, il faut s'inscrire toujours dans cette démarche d'aller provoquer ça, quoi.
Mmh. Mais je vous ai annoncé tous les deux comme le renouveau du jazz français. Bon, c'est des titres un peu pompeux, mais qui, pour moi, ont quand même un sens, parce qu'il y a une effervescence quand même dans le jazz français. Vous faites partie d'une génération, bon, Elinor est un petit peu plus jeune que vous, mais au niveau de la discographie, du coup, ça s'équilibre à peu près, parce qu'elle a démarré très jeune. Et vous avez démarré un peu tard, donc comme ça s'équilibre. Mais c'est vrai qu'il y a un courant comme ça déjà d'indépendance et de liberté, puisque Elinor aussi a créé son propre label et son propre réseau. Et puis vous donnez les moyens, parce que c'est beaucoup de travail. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que je vous côtoie régulièrement. Et c'est-à-dire que non seulement vous composez la musique, vous la jouez, mais il faut trouver les moyens, il faut s'occuper des réseaux sociaux, de la presse, de trouver des concerts. Enfin, c'est un boulot de dingue, c'est 18 heures par jour à fond. Et vous êtes des héros, quoi. Voilà, moi je le dis. Je le dis, que nos auditeurs sachent bien que j'ai deux héros à côté de moi. Non, parce que ça, je suis admiratif de cette ténacité pour porter votre musique, quoi.
Oui, c'est un peu... moi, je le vois un peu comme un marathon.
Oui, c'est ça.
Avant de partir, on se dit « Oh là là, j'ai la flemme ». Et puis après, quand on est dedans, on y est. Et puis finalement, une fois qu'on l'a fait, on est tellement heureux d'avoir pu aller au bout de ça et de pouvoir le faire. Finalement, moi, le fait que ces disques existent, je n'irai pas jusqu'à dire que ça me suffit, mais presque, dans le sens où... bah, si on me demande ce que je fais comme musique, eh ben, je peux tout simplement dire bah, voilà, c'est là. Et ça, c'est précieux, en fait.
Oui, ouais, bah, tout à fait. Puis j'imagine qu'à la fin des concerts, quand le public est réceptif et que vous voyez que vous avez séduit comme ça une grande partie du public, c'est quand même... vous avez gagné, quoi. Mmh. Il se passe un truc, quoi, à ce moment-là.
Oui, c'est sûr.
Ah, y a une effervescence. Moi, j'ai été au concert du Jardin, là, au Café de la Danse. Il s'est passé quand même un truc. Parce qu'en live, c'est toujours mieux. Les disques sont beaux, mais en live, c'est toujours mieux. Alors, on va terminer l'émission, parce que le temps passe vite. Et on va écouter un troisième et dernier morceau qui s'intitule Trans ID. Si je prononce bien. Hein.
Oui, c'est ça.
Transidée
à la française.
Transidée à la française. Ouais. Alors là, vous avez une invitée de marque qui est une saxophoniste ténor suisse qu'on remarque beaucoup en ce moment, qui fait beaucoup parler d'elle. Elle s'appelle Maria Grande, qui est assez phénoménale. Alors, c'était comment l'idée de la contacter? Pourquoi
Moi, j'ai découvert ses deux premiers albums qui ont été, pour moi, une espèce de révélation. J'ai trouvé vraiment...
En trio, hein. Ouais.
C'est ça, en trio. Absolument incroyable, instrumentalement et musicalement, artistiquement. Et j'ai voulu... en fait, je ne la connaissais pas du tout. J'y suis allé vraiment comme ça, en mode... je lui ai envoyé un message sur un Facebook.
Et ça a marché.
Et elle m'a répondu, voilà. Mais
Elle joue terrible.
Elle est incroyable.
Et surtout, du coup, à deux sax, sax alto, sax ténor.
Et violon.
Oui, le violon, bien sûr, ne l'oublions pas. Et il se passe un truc, et ce serait super si vous pouviez faire des concerts avec elle, je vous le souhaite.
Oui,
hein,
oui, j'aimerais
beaucoup. Elle a un emploi du temps assez chargé, je sais bien.
Mais elle est vraiment incroyable, et là, elle fait un solo qui est complètement fou.
C'est phénoménal. On va laisser nos auditeurs l'écouter. Mais avant d'écouter ce Trans ID, donc je voulais vous remercier tous les deux, Elinoa et Julien, d'être venus à Jazzland. Et je remercie également Armand à la technique, ainsi que Madeleine et Salomon pour le générique et les jingles. Voilà, c'est ma dernière émission sur Aligre FM. Vous retrouverez bien sûr Jean-Marc Gélin la semaine prochaine, ainsi que les suivantes. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur le site d'Aligre FM, ainsi que toutes les émissions de Jazzland. Au revoir à tous, et on se quitte avec le jardin de Julien Dubois, qui interprète Trans ID.